pourquoi l'existence? Avez-vous déjà réfléchi à la question? La Terre, la vie active, le monde, se réveiller le matin, aller travailler, ramener de l'argent à la maison pour payer son loyer, pour nourrir sa famille, aller dormir, se réveiller le lendemain, repartir, faire quelques loisirs, amasser un peu d'argent pour la retraite, vivre sa retraite. À quoi ça sert? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Le fou dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Psaume 14, le début du verset 1. Comment est-ce que la Bible peut affirmer qu'il faut être insensé, qu'il faut être fou pour dire qu'il n'y a pas de Dieu? Eh bien, il y a Ésaïe qui donne une petite réponse. Ésaïe 40, verset 28, il dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. » Ce matin, nous allons parler de ce Dieu grand, de ce Dieu infini, de ce Dieu insondable, de ce Dieu insaisissable. Et pourtant, ce Dieu proche, ce Dieu impliqué, ce Dieu intéressé, ce Dieu manifesté, ce Dieu qui s'est révélé. Nous allons nous plonger ou nous replonger dans le livre de la Genèse. Alors certains vont me dire, oh, mais on connaît. Ouais, on connaît. Un peu. Mais ça fait toujours du bien d'y retourner. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais André, il a assez insisté sur la thématique de l'héritage. Nous avons un héritage dans cette parole et en particulier dans le livre de la Genèse. Et c'est important d'y revenir. Ce nom, la Genèse, c'est un nom grec, Genesis, qui veut dire origine, naissance. Mais en hébreu, ce nom, Bereshit, veut dire au commencement. Parce que c'est simplement les premiers mots du livre. Presque tous les livres, ou tous les livres de l'Ancien Testament, ils ont comme nom les premiers mots, qui annoncent tout ce qui va venir. Au commencement, le livre du commencement, et même le livre des commencements. Il y a un grand commencement et il y a plusieurs recommencements. Un commencement origine des cieux et de la terre, de la lumière des ténèbres, de la création végétale et animale, de la création de l'être humain, le début du péché, le commencement de l'œuvre du salut, le commencement de la civilisation, des activités humaines, tout ça, c'est dans la Genèse. Alors je vais vous lire une bonne grosse partie du premier chapitre de la Genèse. Soyez bien attentifs. Et on va aller jusqu'au verset 3 du chapitre 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Pause. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Déjà là, il y a une parole, il y a une dimension prophétique. D'abord les ténèbres après la lumière. D'abord la mort après la résurrection. D'abord vendredi saint, ensuite la Pâque. Vous comprenez? Déjà, dans la création, le jour ne commence pas le matin, le jour commence le soir. Parce que ce qui est à venir, c'est la lumière. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Pause. Quand Dieu crée, déjà il met la semence dans la végétation. Déjà, il met la semence dans les arbres. Déjà, il a pensé aux fruits. Déjà, il a pensé à la multiplication. Déjà, il a pensé à cette prospérité de la nature, au foisonnement de ses œuvres. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je passe à la fin du chapitre 1. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Je vais vous montrer un tout petit schéma pour expliquer en deux mots comment tout cela a été décrit. Ce que vous pouvez voir, c'est que le style de ce passage, c'est de la semi-poésie, c'est de la prose poétique. En fait, la façon dont le texte est construit, il y a beaucoup de parallèles avec des textes mésopotamiens, et c'est un style littéraire. Premier jour, regardez la structure. Pourquoi c'est une sorte de poésie? C'est parce que ça fait comme un miroir. Le premier, le deuxième et le troisième jour sont comme en miroir avec quatrième, cinquième et sixième. Le premier jour, Dieu sépare jour-nuit. Deuxième jour, il sépare ciel-mer. Troisième jour, il sépare sec mouillé et il commence à créer la verdure. Et en miroir, le quatrième jour, en miroir du premier, création des luminaires par rapport au jour et à la nuit. Le deuxième jour où il a séparé ciel et mer, c'est là qu'il crée les oiseaux pour le ciel et les poissons pour la mer. Et le troisième jour, séparation du sec et du mouillé, il met les animaux sur le sec et les hommes aussi. En fait, les trois premiers tableaux, les trois premiers jours, Dieu est en train de séparer. Il commence à structurer. Et la deuxième partie, en miroir, Dieu peuple. Dieu peuple sa création. C'est un style littéraire. Il y a de la prose et il y a de la poésie. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça et les textes mésopotamiens ne peuvent pas rivaliser. C'est impossible. Il y a un message beaucoup plus puissant dans ce message de la Genèse. Alors, c'est ce qui nous aide peut-être à comprendre que ces 7 jours ne sont certainement pas 7 jours de 24 heures. Certainement pas. Certainement que la terre est beaucoup plus vieille que ce que dans le milieu évangélique souvent on a cru. Mais ça n'enlève rien au principe divin. Ça n'enlève rien au principe de la création. Ça n'enlève rien à la puissance de Dieu. Bien au contraire. Tout ce que les scientifiques trouvent et qui est vrai est déjà dit dans la Bible. Ils confirment simplement ce qui est dit dans la Bible. Alors, comment comprendre ce passage ? L'important, c'est pas de comprendre comment est-ce que Dieu a créé les cieux, comment les cieux et la terre ont été créés. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a eu un Big Bang? Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une création évolutive? Qu'est-ce que c'est? Comment? Ça, c'est le job des scientifiques. Et c'est pas faux. C'est pas faux d'aller chercher. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi la terre? Pourquoi le monde? Pourquoi l'existence? Pourquoi tout ça? C'est fermé, on peut pas voir dehors, mais pourquoi? Pourquoi cette nature qui se déroule devant nos yeux? Pourquoi nous? La question, c'est pas comment, mais qui est derrière tout ça? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Tout part de Dieu. Sans Dieu, il n'y a rien. Le début de toute chose, c'est Dieu. Dieu est avant toute chose. Il est le but de toute chose. Il est la fin de toute chose. Au commencement, Dieu. Dieu ne dépend de rien, mais tout dépend de Dieu. Dieu est distinct de sa création. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Dieu dépasse sa création. Avant la création, il y avait Dieu. Dieu s'occupe de sa création. Il est en relation avec sa création. Mais il n'en fait pas partie. Dieu est externe à sa création. Dieu ne vient pas de la terre. Dieu ne vient pas des cieux visibles, du monde visible. Dieu ne vient pas de l'univers. Univers, cosmos, terre et ciel, Dieu les a créés. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu lui-même n'a pas été créé. Dieu existe par lui-même. Si vous commencez à dire, mais non, c'est pas Dieu. Il y a une puissance qui a créé tout ça. Ok. Mais c'est qui est derrière cette puissance? C'est une autre puissance qui a créé cette puissance pour qu'elle puisse créer cette puissance. C'est infini. Non. Au commencement, Dieu. Dieu est autosuffisant. Il n'a besoin de personne. Dieu nous dépasse par sa connaissance. Il nous dépasse par son intelligence. Il nous dépasse par sa grandeur, par son infinitude, par sa dimension. Mais il nous dépasse aussi par son amour, par sa pureté, par ses pensées, Mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55. Dieu nous dépasse à tel point qu'on ne peut pas le saisir. On ne peut pas le comprendre. Son infinité, son éternité, ses qualités dépassent notre compréhension. Nous, nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres illimités. Dieu, lui, il est infini, illimité, impossible de saisir l'insaisissable. Que ce soit par nos mains, que ce soit par nos yeux, que ce soit par nos pensées, notre intelligence ou notre science, Dieu nous dépasse. À ce stade, c'est bon de faire une toute petite pause. Et juste essayer de réfléchir, prenez 30 secondes, de juste réfléchir à cette réalité, Dieu est externe à sa création. Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. Quand on commence à sonder, à chercher Dieu, Dieu nous dépasse, mais Dieu se fait connaître. Dieu se révèle. Comment se révèle-t-il? Est-ce que vous savez comment Dieu se révèle? Il y a des petits signes d'acquiescement. Dieu se révèle de deux grandes manières. Il y a une manière générale, une manière universelle. Dieu se révèle pour toute la terre, pour toute l'humanité. Il se révèle dans sa création. On peut aller voir dans Psaume 19, les versets 2 à 4. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ou alors, dans Romains, premier chapitre, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire que Dieu se révèle simplement par tout notre environnement, par tout ce qu'il a créé. Mais Dieu se révèle aussi dans sa providence. Qu'est-ce que c'est que la providence de Dieu? C'est le fait qu'il pourvoit. Mais cette révélation générale de sa providence, eh bien, Dieu pourvoit dans ses lois, dans les lois de la nature. Le fait que les arbres donnent du fruit et que chaque année les arbres donnent du fruit. Dieu ne change pas les lois pour que tout à coup un arbre ne donne plus de fruits. Il décide pas d'un jour à l'autre, celui-ci il va donner de l'eau ou il va donner de la boue. Non, un arbre il donne du fruit, point. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la providence de Dieu. Parce qu'il y a une loi que Dieu a mis dans l'arbre pour qu'il donne du fruit. Et c'est la même chose pour les lois physiques, la loi de la gravité. Depuis que le monde est au monde, si on prend un objet et qu'on le lâche, il tombe. Mais si aujourd'hui Dieu se dit, allez, j'arrête, j'en ai marre, je retire cette loi. Eh bien, on va tous s'envoler. Et essayez d'imaginer cette loi de la gravité qui n'existe plus. Ou la loi de l'aérodynamique. Si tout à coup Dieu dit, allez, ça suffit, il y a trop d'avions, j'arrête cette loi. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de réfléchir à toutes les lois physiques. Quand vous faites de la chaleur pour cuire de l'eau, qu'est-ce qui se passe si la loi de, comment ça s'appelle, la fusion ou je sais plus, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces lois, ça fait partie de la providence de Dieu. Dieu soutient le monde par sa parole. Dieu soutient la terre. Dieu soutient les hommes. Dieu soutient les lois physiques. Aucun être humain n'a inventé une loi physique ou une loi de la nature. On peut planter une graine, mais à part arroser et protéger, on ne peut pas faire que cette graine, elle germe et qu'elle pousse. Il y a une loi que Dieu a mise dans la graine pour qu'elle donne son fruit. C'est la révélation générale et ça, c'est la providence de Dieu. Et ça, n'importe quel être humain peut le voir, peut le comprendre. Il y a une autre chose dans cette révélation générale, c'est notre conscience. Tout être humain, même celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne connaît pas Jésus, a une conscience. Il a la conscience du bien et du mal. C'est pour ça qu'il y a la police. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux. C'est pour ça qu'il y a des avocats. C'est pour ça qu'il y a des lois. Si l'être humain n'avait pas cette conscience du bien et du mal, il n'y aurait pas de loi. Il n'y aurait pas de règles. Ce ne serait pas nécessaire. Sauf que, à cause de la chute du péché, tout est brouillé. On appelle le bien mal, le mal bien, etc. Tout est brouillé. Mais au départ, dans notre conscience, nous avons quelque chose de Dieu, ce que Jésus a purifié. Voilà, ça c'est la révélation générale de Dieu. C'est une manière de commencer à penser Dieu, à percevoir Dieu, à comprendre, mais oui, il y a un Créateur. Mais oui, il y a un Dieu. Mais ça ne suffit pas pour le connaître de manière intime. Et il y a une deuxième manière de se révéler, qui cette fois n'est pas générale, mais elle est spéciale, elle est particulière, individuelle, spécifique, beaucoup plus pointue. Et c'est quoi cette révélation spéciale? C'est la parole. Dieu se révèle dans la parole. C'est la parole inscripturée, la parole verbale, la parole écrite. Mais c'est aussi Jésus-Christ, la parole incarnée. Et c'est aussi bien sûr le Saint-Esprit qui nous permet de recevoir ces révélations et de comprendre Dieu, de comprendre notre Créateur, d'apprendre à commencer à le connaître dans les choses qu'il veut nous faire connaître de lui. Alors au commencement, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, créa les cieux et la terre. C'est pas écrit comme ça. Mais la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait ou se mouvait ou virevoltait au-dessus des eaux. Au moment créateur, le Saint-Esprit est déjà là. Mais allez voir la suite. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Dieu proclame une parole. Jésus est la parole. Allons voir dans Jean. Jean, il commence son évangile comme la Genèse. Jean 1, 1 et quelques versets suivants. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Un peu plus loin, au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et encore plus loin, au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Au commencement était la parole, tout a été fait par elle, pour elle, rien n'a été fait sans elle, et la parole était Dieu, Jésus-Christ, le Fils. Le Fils s'est incarné, mais le Fils, avant de prendre la forme humaine en Jésus-Christ, le Fils est déjà là dans l'acte créateur. Au commencement, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Est-ce que ça veut dire qu'au commencement, les choses étaient négatives? Pas du tout. Ces termes, tohu, bohu, ça dépend quelle version vous avez, si vous avez les anciennes ou si vous avez les nouvelles. Tohu, bohu, la terre était informe et vide, elle était désertique. Elle était vide, il n'y avait rien. Et il y avait des ténèbres, mais ce n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est quand il y a déjà quelque chose et que ça devient désertique. Vos vies, parfois. Mais quand il y a quelque chose de désertique qui se met à fleurir, C'est pas négatif. Il y a une différence entre la fin de quelque chose ou le début de quelque chose. Au commencement, la terre est un amas de cellules. Au commencement, Dieu commence à créer la matière. Parce qu'au début, il n'y a pas de matière. Qui a créé la matière, si ce n'est pas Dieu? Dieu crée, il fait des atomes, des cellules, il fait un amas de tout ça. Au début, c'est désertique, il y a de la ténèbre, c'est un début. C'est comme ce que David dit dans le psaume 139 au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, désertique et vide, un embryon, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Comment ça marche le début d'une vie humaine? Au commencement, c'est pas en une journée de 24 heures qu'on vient à la vie. Au commencement, on est un tout petit amas de cellules, informe, désertique. Il n'y a encore pas tous les organes et tout ça. Il y a un patrimoine génétique déjà, mais il n'y a pas encore tout. Et c'est dans les ténèbres. C'est dans la nuit, c'est dans le secret, en cachette pour l'instant. Et ça se développe et ça grandit. Et si c'est pas le cas, ça va pas. C'est pas négatif cet amas de cellules, cette terre informée vide. C'est simplement que c'est le début, c'est le commencement. Et ensuite, Dieu commence à structurer, Dieu commence à faire foisonner la vie. Quelqu'un disait dernièrement, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu fait quoi? De la gestion de projet. Mais c'est exactement ça. Dieu, au début, il est juste Dieu. Et il se dit, faisons. Faisons la terre. Faisons la création. Faisons l'homme. Faisons les animaux. Créons. Il commence à planifier, il commence à structurer, il se dit, bon, je vais déjà créer la matière, ensuite, je vais en faire une terre, mais je vais aussi faire des luminaires, ce sera aussi avec la matière, je vais les disposer comme ça, et comme ça, je vais pouvoir faire des années, au même temps, je vais faire des siècles, non, des millénaires, des siècles, des mois, des années, etc. Je vais marquer des saisons, je vais même faire la différence entre un jour et un autre. Et il se dit, mais je vais mettre la végétation luxuriante, et je vais y mettre ma diversité, pour que ce soit beau, pour que ça sente bon. Je vais mettre des oiseaux, des animaux qui vont chanter, pour que ce soit beau pour l'oreille. Je veux mettre plusieurs matières, pour qu'on puisse les sentir et les apprécier. Mais je vais mettre l'être humain aussi, pour que je puisse communiquer avec lui, être en relation, qu'il puisse m'aimer, qu'on puisse se voir et qu'il puisse s'occuper de cette création et je l'aiderai. Dieu planifie, Dieu projette. Et après il se dit oui, mais ce seront des êtres finis. Il y a un moment, ils vont dépasser la limite. Ils vont vouloir dépasser la limite. Ok mon fils, est-ce que tu es d'accord? À un moment donné, tu viendras marcher dans ta création. À un moment donné, tu viendras rencontrer. Est-ce que tu es d'accord? Et le fils dit oui. Alors Dieu commence à créer. Et il structure tout. Il crée les choses d'une manière un peu grossière au début, si vous passez l'expression. Mais après, c'est de plus en plus fin. De plus en plus fin, de plus en plus subtil. Et une fois qu'il a créé l'homme et la femme, Dieu dit, c'était très bon. Et là, il entre dans le septième jour, le jour où il se repose. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous avez remarqué? On nous dit plus, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le huitième jour. Non. Il ne bénit pas de la même manière qu'il a créé les animaux, qu'il a créé l'être humain. Il le bénit d'une manière prophétique. Dieu se repose dans ce septième jour. Ce jour n'est pas terminé. Nous sommes dans ce septième jour. Mais en plus de ça, ça appelle le sabbat que nous attendons pour l'éternité que nous passerons avec le Seigneur. Alors, est-ce que ça veut dire, vu que Dieu se repose, que Dieu ne fait plus rien et que nous sommes devenus autonomes et qu'on n'a plus qu'à se débrouiller? Est-ce que ça veut dire ça? Maintenant qu'il a tout créé, tout fonctionne. La Terre, elle sait comment est-ce qu'elle doit tourner, la Lune aussi, le Soleil aussi, les galaxies, enfin, ça dépasse mon entendement. Les astronomes sauront mieux que moi expliquer comment notre système solaire et même l'univers fonctionnent. Mais ça fonctionne. Pourtant, la Terre n'est pas autonome. Le monde ne l'est pas. Pas du tout. Dieu continue de soutenir la création par sa parole. Dieu continue de soutenir la création par sa providence. Dieu continue d'être en relation avec sa création, avec chacun de nous. Le fait que Dieu se repose, c'est simplement qu'il a arrêté de créer. La création, elle est faite. C'est fini. La matière, elle est faite. Il n'y a plus besoin de la refaire. Les êtres humains, ils sont créés. Il n'y a plus besoin d'en créer une autre sorte. Ça, c'est terminé. Mais le repos de Dieu n'est pas inactivité. Le repos de Dieu, c'est sa fidélité, c'est son amour, c'est sa providence, c'est son soutien, c'est sa relation. Et bien sûr, on le verra plus tard, c'est la venue de Jésus-Christ. Ce savoir créature. Comprendre que nous sommes créatures. La création n'est pas une nécessité. Dieu n'avait pas besoin de créer quoi que ce soit. Dieu se suffit à lui-même. Mais Dieu crée librement, dans un acte de volonté de sa part, par amour. C'est parce qu'il aime que Dieu a créé. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Le Père aime le Fils, le Père aime le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime le Fils aime le Saint-Esprit, le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Saint-Esprit aime le Père, et ça va dans tous les sens. Et l'amour, il voyage de l'un à l'autre, il voyage, il s'aime, il est un, il est Dieu, et l'amour déborde. Et quelque part, c'est déjà une famille, c'est déjà une société. Dieu se suffit à lui-même. Mais dans un élan, dans un débordement, dans un excès d'amour, Dieu crée et il nous crée. Il fait de nous ses créatures. Autant dire que nous sommes précieux à ses yeux. Nous avons tous de la valeur. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des demi-dieux. Nous sommes des créatures. Nous avons une finitude. Nous avons des limitations. En plus de ça, on ne peut pas tout savoir de Dieu, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas le définir, mais on peut l'adorer parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a désirés, parce qu'il a fait un projet. Il est gestionnaire de projets aussi pour chacune de nos vies. Pour chacun d'entre nous, quand il nous a créés, il a déposé quelque chose pour que notre vie, elle ressemble à ça. Bien sûr, il y a eu toujours cette histoire du péché qui a fait que la route, elle est parfois difficile. Mais ça n'enlève rien au projet de base. Ça n'enlève rien à la fidélité de Dieu. Ça n'enlève rien au fait qu'il est venu nous rejoindre pour qu'on puisse marcher dans ses voies, dans le projet spécifique qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Alors, que faire avec tout cela? Recevoir l'existence comme un don. Je vous encourage, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pensez à ça. Pensez que vous êtes créature. Pensez que vous avez un créateur. Dernièrement, un de nos profs à l'école de théologie nous disait, si vous allez faire un micro-trottoir, vous allez interroger les gens. Beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils ont besoin de sauveur. Beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils ont un sauveur s'ils veulent bien l'accepter et le rencontrer. Beaucoup ne le savent pas, ne sont pas conscients qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais il y en a encore beaucoup plus qui ne sont pas conscients qu'ils ont un créateur. Et parfois, nous non plus, nous ne sommes pas conscients que nous avons un créateur. Que le Seigneur nous donne la révélation de comprendre qu'est-ce que c'est d'être la créature du Dieu vivant. Comprendre que notre vie est voulue par Dieu. Et ça veut dire qu'on n'a pas à prouver ou à chercher notre valeur. Parce que notre valeur, c'est un fondement existentiel qui repose sur Dieu seul. C'est Dieu qui me donne ma valeur, personne d'autre. Donc, quelles que soient nos circonstances de venue au monde, ça n'a rien à voir quelque part. Ma valeur, elle ne vient pas de mon patrimoine génétique. Ma valeur ne vient pas de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Ma valeur existentielle, elle repose sur Dieu seul. Et Dieu est amour. Et Dieu est justice. Et Dieu est fidélité. Et Dieu est pardon. Et Dieu est miséricorde. Ça fait partie des réflexions à avoir quand on va se dire, c'est vrai, je suis une créature et j'ai un créateur. Et comprendre aussi que puisque je suis créature, eh bien je suis limitée. Je ne suis pas Dieu. Je suis une créature finie quelque part. J'ai des limites physiques. Moi, je sais pas vous, j'arrive pas à voler. J'ai même pas envie d'essayer. J'ai des limitations physiques. Il y a des choses que certains d'entre vous, vous arrivez à faire physiquement, moi j'y arrive pas. J'ai des limitations qui me sont propres. Il y a des limitations mentales, cognitive, intellectuelle. On est tous limités à ce niveau-là, mais pas tous de la même manière. On a des limites dans beaucoup, beaucoup de domaines. Dans la créativité, par exemple. Dans la dextérité, etc. Mais ça, cette compréhension, même si on devrait viser l'excellence, parce que Dieu nous dit de tout faire pour le Seigneur, de tout faire pour la gloire du Seigneur, si on doit viser l'excellence, donner tout le meilleur, tout le potentiel que nous avons en nous, ça veut quand même dire notre finitude et nos limitations, qu'on devrait parfois baisser un petit peu la barre de nos exigences envers nous-mêmes. Là, je le dis un peu pour moi, en ce moment. Je panique pour mes examens, je panique pour les devoirs que je dois rendre à l'école, je panique pour les prédications qu'il faut amener le dimanche matin, parce que c'est pas parfait, parce que j'ai mis la barre au-dessus du plafond là en haut, puis que j'y arrive pas. Et je suis une créature et je suis limitée. L'important, c'est pas d'arriver au-dessus du plafond. L'important, c'est de faire fructifier ce que le Seigneur m'a donné. Et ce que je ne peux pas, parce que je suis limitée. Et que cela m'aide à ne pas m'enorgueillir. C'est tellement important. Si tout ce qu'on faisait était parfait, mais, on se prendrait pour qui? Déjà, sans être parfait, on se prend pour qui? Alors j'invite le groupe de louanges à se préparer, on va prendre un chant. Mais je vous repose la question du début. Pourquoi l'existence? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Essayez d'approfondir dans les temps qui viennent. Qu'est-ce que c'est d'être créature? Qu'est-ce que c'est d'avoir un créateur? Pourquoi? Pourquoi l'existence? Amen.